Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer du média suivant, Urbania. Au programme, comment des applis de bien-être mental m'ont sauvé de la déchéance. Et, mais qui croit encore aux histoires de fantômes? Bonne écoute.
Comment des applis de bien-être mental m'ont sauvé de la déchéance, un texte de Antonin Gracien, paru le 18 avril 2023 dans Urbania. Vous habitez hors des métropoles? Bienvenue dans le désert psychiatrique. Vous engagez une thérapie? Félicitations. Mais préparez-vous à creuser votre budget au fil de vos consultations hebdomadaires pendant des mois, voire des années. Un ultra-luxe dans cette période d'inflation, a fortiori. Après cela, plusieurs choix. Craquer son épargne, laisser l'amorosité s'installer ou se tourner vers les applis de santé mentale. Des outils en plein boom que le chercheur en sciences sociales Xavier Briffaut vante comme étant à peu près aussi efficace que les psychothérapies courtes pour des troubles communs, genre la dépression, l'anxiété et la dépendance. De noirs rivages dans lesquels je navigue depuis un bout et contre lesquels ces plateformes offriraient une planche de salut. Le tout à portée de clic. Pour vrai? Dévaliser l'Apple Store. Fortement engaillardi par la perspective d'une prise en charge massive de mes vils penchants, j'ai la main lourde sur l'Apple Store. Un vrai braquage. Appli pour stopper la cigarette, ralentir les psychotropes, s'initier à la méditation, booster mon moral, tout y passe. Certaines plateformes proposent des forums de soutien entre utilisateurs et utilisatrices, d'autres misent sur un suivi quotidien. Il y a de tout. Et ce feu d'artifice d'interface dédié au feel-good me fait l'effet d'une étreinte chaleureuse, une sorte de bienvenue dans la famille avec les sourires, le chocolat de bienvenue et tutti quanti. Ça démarre fort. Première réflexion. Dans une époque où l'accès à la santé n'est pas donné à tout le monde, les plateformes de e-santé qui y sont dédiées font au moins tomber trois barrières. Celle du financement, bien sûr, les éventuels tarifs d'abonnement aux applis étant largement inférieurs à ceux des praticiens et praticiennes. Envolé aussi le tabou qui pèse encore sur la santé mentale dans notre société. En tête à tête avec votre téléphone intelligent, pas de regard stigmatisant. Jackpot. Et n'oublions pas l'accessibilité. Votre suivi, vous l'emportez avec vous partout, n'importe où. Lorsque je repense aux innombrables pépins de synchronisation entre mon horaire et celui des psys que j'ai côtoyés, et qui œuvrait en moyenne à 50 minutes de chez moi, notons, laissez-moi vous dire que ça n'est pas juste pratique, c'est apaisant. Le premier pas vers la guérison, sans doute. Des outils très friendly. Voilà, nous y sommes. Après avoir rempli quelques formulaires, une flopée d'applis en sait plus sur mes vices et vulnérabilités que le plus proche de mes chums. Mais à l'ère de l'extractivisme mercantile des données personnelles, qui est-ce que ça choquerait? Pas moi. C'est donc en toute insouciance que je me dévoile à ces plateformes qui, d'ailleurs, me le rendent bien. Presque un chouïa trop. Depuis que je les ai en poche, mon quotidien est ponctué de salves d'encouragement très friendly. Ici, une notification me félicite parce que 2 jours sans tabac, c'est déjà le début de quelque chose. Là, une voix apaisée salue ma détermination à entrer en pleine conscience. M'allonger en respirant profondément pendant 10 pauvres minutes, mérite-t-il vraiment louange? L'effet ovation constant de ma cohorte d'appli me donne l'impression d'être un enfant, encouragé par une assemblée familiale gâteuse, tombé en pamoison devant mon gribouillage, pas si fou, mais enfin c'est déjà ça. Gênant. Heureusement, passé cette cuisante impression d'infantilisation, l'ascenseur émotionnel fait un stop salutaire à la case fierté. Simplement parce qu'en matière de santé mentale, il n'y a pas de petite victoire. Sauf que, qui reconnaîtra nos moindres pas en avant comme des victoires? Après tout, nul ne saurait décemment exiger l'accolade de son entourage à chaque soupçon de mieux-être. C'est là que les applis entrent en piste, et sur les chapeaux de roue, s'il vous plaît. Comptez sur elles pour vous soutenir dans toutes vos initiatives. On retrouve là l'un des principes clés des cercles de discussion thérapeutique, s'encourager en masse, s'applaudir, se féliciter. Parce que, ouais, pour une personne dépendante, 2 jours sans sa dose, c'est effectivement déjà le début de quelque chose. Jamais sans ma gang d'appli. Sans remplacer la véritable thérapie, cette approche repose sur une intuition percutante. Nous pourrions prendre soin de notre morale grâce à de petits entraînements quotidiens. À l'instar de la santé physique, quoi. En rendant visite à l'application jour après jour, nous musclerions notre morale à l'aide d'exercices de conscientisation, notamment. Ici, il ne s'agit pas de dénouer le fameux complexe d'Édipe, ni de disserter longuement sur des enjeux métaphysiques, mais plutôt de décrocher des outils accessibles, concrets, maniables, pour mieux gérer son spleen, et aborder l'avenir plus sereinement. S'engager dans une routine mentale pour mieux se porter, donc, comme si l'on adoptait un nouveau régime alimentaire en caressant l'idée de cultiver son hygiène de vie. Le concept est séduisant et me pousse à me confectionner un cocktail maison d'appli voué à mon mental. De l'auto-hypnose par-ci, du suivi émotionnel par-là. Et ça me fait mal, très mal de le dire, mais tout et toutes ces influenceurs et influenceuses et coach de motivation en ligne qui jure qu'accorder 20 minutes par jour à son bien-être mental change la vie, ne sont pas dans le faux. Ces gens-là ont même plutôt raison. Même plus peur de la dépression saisonnière, maintenant que j'ai ma gang d'appli derrière moi. C'était « Comment des applis de bien-être mental m'ont sauvé de la déchéance », un texte de Antonin Gracien, paru le 18 avril 2023 dans Urbania. Thank you. Mais qui croit encore aux histoires de fantômes? Un texte de Antonin Gracien, paru le 28 juillet 2022 dans Urbania. 2017, Franche-Comté. Beverly part avec son compagnon d'alors pour un week-end en amoureux. Destination, une vaste maison de campagne, isolée juste ce qu'il faut. Idéal sur papier. Dans les faits, moins. Beaucoup moins. Le lieu est vieillot, vétuste. L'atmosphère les étouffe. Il y a la crasse, les grincements. Et surtout, cette curieuse sensation de présence, une fois montée dans la chambre conjugale où, en tête de lit, trône un étrange crucifix. Comme l'impression que quelqu'un épie chaque fait et geste depuis un coin de la pièce, ou pire, l'extrémité de la couche. On serre les dents, on ferme les yeux, on essaie d'oublier. Bon, la nuit passe. Le lendemain, viré au Luxembourg. Le couple rentre une fois la nuit tombée et... Tiens, tiens, bizarre. En s'approchant de la lugubre demeure, quelque chose frappe nos tourtereaux. La porte d'entrée est grande ouverte. Les lumières toutes allumées. Pourtant, j'étais sûre de... Oui, oui, pas de doute, l'électricité avait été coupée avant le départ et l'entrée soigneusement verrouillée. Alors quoi? Un cambriolage, peut-être. Tandis que Beverly se calfeutre dans sa voiture, l'aimé s'arme d'un fusil de chasse pour inspecter la maison. Terrifiée à l'idée de rester seule, notre héroïne décide à pas hésitant de le rejoindre quelques minutes plus tard. Elle entre à son tour, puis s'arrête net lorsqu'elle distingue au fond d'un couloir mal éclairé une silhouette. Celle d'une petite fille, vêtue d'une robe blanche, la coupe au carré. L'enfant la fixe. Aussitôt, Beverly prend ses jambes à son cou. Une histoire pas si extraordinaire. Scénario du prochain hit de la franchise Conjuring? Nope. Juste le très mauvais souvenir d'une femme qui, sans accorder spécialement crédit aux esprits frappeurs, a toujours été sensible au paranormal. À l'époque où chacun s'émerveille des dernières trouvailles galactiques du télescope James Webb, où le plus influent des influenceurs, aka Elon Musk, ne jure que par l'astrophysique et surtout, qu'une science triomphante semble être parvenue à lever le voile sur les insondables énigmes des siècles passés, de la création de l'univers à l'origine des humains, ce récit a tout de même de quoi étonner, voire susciter la moquerie. Quoi? En 2022, t'es encore assez pigeonne pour croire au croque-mitaine? Vous voyez le genre. Aux yeux d'une multitude, l'histoire de Beverly est tout au plus bonne à faire foutre les jetons au petit cousin Daniel en clôture de dîner familial. Aux yeux d'une multitude, oui. N'empêche que d'autres n'y voient rien de délirant. C'est le cas de l'Institut Métapsychique International, une structure reconnue d'utilité publique, dédiée à la recherche dans le champ du paranormal, pour qui ce récit mérite carrément une étude sérieuse. Les témoignages d'apparitions sont assez fréquents chez nous, atteste Paul-Louis Rabéron, pédopsychiatre et chargé de cours à l'université, aujourd'hui vice-président de l'établissement parisien placé sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Depuis sa naissance en 1919, l'IMI investigue deux classes de phénomènes paranormaux tels que Les parapsychologues les décrivent et étudient depuis la fin du 19e siècle. D'une part, les phénomènes dits de perception extrasensorielle, style télépathie, clairvoyance et précognition. D'autre part, la psychokinèse, soit les interactions esprit-matière, dans lesquelles rentre la phénoménologie des poltergeists, une confrontation à des phénomènes troublants, déstabilisants, inhabituels. L'histoire de Beverly relève complètement de cette catégorie. Et elle est loin d'être isolée, pointe notre expert. En témoigne le récit d'Ambre. Enfant, cette illustratrice a plusieurs fois séjourné en compagnie de son père et ses sœurs dans une maison hyper-méga cliché. Style un côté à 100 ans, l'autre 200. Avec un tunnel bouché menant à un château, de l'or planqué à proximité, une personne âgée décédée dans une des pièces, plusieurs objets dissimulés au creux de murs fraîchement abattus pour rénovation. Clairement, la maison a une dégaine chelou. Si ce n'était que ça. Bien vite, Ambre constate des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Un coup, c'est un cube posé depuis des années sur une étagère qui se trouve propulsé à ses côtés. L'autre, un pan d'étagère qui s'effondre soudainement et révèle au sol la pochette précise d'un vinyle que son père avait désespérément expliqué 2 minutes auparavant avoir égaré. Sans oublier cette fois où belle-maman a aperçu la silhouette d'une femme flottant au-dessus d'une des enfants, tout juste bordée. Il y a aussi les lumières qui déconnent, les portes qui s'entrebâillent, les mystérieux bruits de pas. Bref, toute une gamme de phénomènes type poltergeist, résume Paul-Louis Rabeyron. Vous écoutez Mais qui croit encore aux histoires de fantômes, un texte de Antonin Gratien, paru le 28 juillet 2022 dans Urbania. Pas de Ghostbusters en action, mais des tests à sujet psy. De quoi flipper, non? Moi, j'étais assez chill, pose Ambre. Certes, l'atmosphère pesait, mais de là à supposer que la maison soit hantée, ça serait interprétatif. Je me suis limitée à constater qu'il y avait de l'inexplicable. Une posture intellectuelle proche de celle de l'IMI. Nous sommes là pour questionner des faits, pas pour verser dans l'approche spiritiste, insiste Paul-Louis Rabeyron. Autrement dit, les membres de l'IMI n'enfilent pas de combi Ghostbusters pour mener bataille contre l'esprit malin, selle à la main, crucifié au cou. Les parapsychologues que nous sommes revendiquent une approche rationaliste qui s'emploie à décrire et comprendre des phénomènes marginaux à la lumière des sciences humaines, la psychologie, l'anthropologie, comme exacte la statistique, la physique. Si vous appelez l'Institut, ne vous attendez donc pas à impulser une expédition d'exorcisme, mais plutôt recevoir des questions sur votre passé, bénéficier d'éclaircissements conceptuels ou vous voir proposer des tests. Car oui, ceux qui s'estiment doués de capacités paranormales, les sujets psy, dans le jargon, peuvent s'éprouver à l'Institut. Prenez Isée, par exemple. Cette infirmière issue d'une famille médiumnique estime ressentir des énergies, faire des rêves prémonitoires, et même être entrée en contact avec des entités. Un profil qui pourrait tout à fait faire l'objet d'une observation entre les murs de l'IMI, selon Paul-Louis Rabeyron. Pas tant pour le côté « get in touch avec des défunts », que sur le versant voyance. Plusieurs protocoles bétonnés grâce à des calculs statistiques existent. Il y a, par exemple, cet exercice consistant à faire deviner des images à distance via support informatique. On évalue les probabilités moyennes que l'individu vise juste et, dans les cas les plus spectaculaires, le sujet semble capable de résultats supérieurs à ce que devrait donner le hasard, assure Paul-Louis Rabeyron. Mais bien d'autres possibilités d'entretien ou de test sont envisageables en fonction des vécus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe une vraie demande pour tenter l'expérience. Plusieurs personnes appellent par mois l'IMI, que ce soit afin de partager un vécu troublant ou passer ces fameux tests. Le signe que malgré nos avancées technologiques galopantes, nos prouesses en matière de recherche génétique, notre regard tourné vers un cosmos de moins en moins nimbé de mystères, l'Occident céderait toujours aux sirènes de l'irrationnel. Et pourquoi pas? La science, une rationalité comme une autre? Selon une étude YouGov, commandée par l'Obs et révélée en 2019, un Français sur trois croirait aux fantômes. Un chiffre écrasant, qui n'étonne pourtant guère Paul-Louis Rabeyron. Nous vivons une période de crise qui, comme à différents moments de l'histoire, exacerbe l'intérêt vers les croyances alternatives. Et il ne s'agit pas simplement de la foi accordée en « les démons » à la « The Ring », mais du boom du tarot, de l'astrologie et de la sorcellerie, de la mode des thérapies marginales, du reiki à la sophrologie, de l'élan panthéiste, des rituels dédiés à Pachamama. Le nombre de décès liés à la Première Guerre mondiale avait favorisé un certain spiritisme dans les années 20-30. Puis, dans les années 60, la critique du matérialisme capitaliste, la sensibilisation à l'écologie, le développement du mouvement féministe et le retour de questions spirituelles portées parfois par des scientifiques de formation ont nourri les racines d'un mouvement New Age bien installé aujourd'hui, analyse le spécialiste. Appelage historique critique, floraison de croyances alternatives, donc. Olivier Bobineau, sociologue des religions et auteur de « L'incroyable histoire de l'Église », à paraître en septembre aux Arènes éditions, approuve. Notre société est multirisque. L'ombre de la guerre nucléaire, la sinistre menace des catastrophes environnementales et sanitaires, ajoutez à cela la disparition des repères d'autorité traditionnelle tels que la figure paternelle ou la religion institutionnelle, et vous obtenez un état de préoccupation générale qui pousse les individus à chercher du sens, histoire d'être rassurés. Et pour cela, tout est bon. Chacun opère dans son coin un bricolage axiologique qui touche autant la science que le paranormal, un champ sociologiquement défini à l'époque contemporaine comme l'ensemble des dispositifs, visions, croyances qui à la fois s'éloignent de la raison scientifique, mais aussi la relativisent. Car après tout, rappelle vigoureusement l'expert, plusieurs régimes de rationalité existent. La science en a un. Et il a été culturellement hissé en position hégémonique, en lieu et place de l'Église catholique d'antan. Mais il est évident que le paranormal dispose également d'une rationalité propre. Un système qui tisse, lui aussi, une toile de signification dont les éléments sont autant de clés de lecture possibles du monde, mobilisés en parallèle d'outils socialement reconnus comme légitimes, tels que les mathématiques, la physique, la biologie. C'est ce braconnage spirituel faisant feu de tout bois qui rend possible l'improbable cohabitation en bonne harmonie entre le crédit accordé à la raison scientifique et la pratique du chamanisme, de la sorcellerie ou de la lithothérapie. Un coup lecture attentive du dernier article de The Lancet. L'heure d'après session Ouija avec les potes. Braconnage spirituel. Qu'on vous dit. En ce quart du 21e siècle, loin de nous enfoncer dans un couloir cartésien, nous assisterions plutôt à une ère d'inclusivité où chacun bidouille une spiritualité à soi, faite maison, loin des modèles normatifs dominants, sciences dures, trois monothéismes, des livres. Une liberté de pioche parmi les divers régimes de rationalité à disposition qui laissent aujourd'hui porte ouverte à des croyances que l'on pensait injustement anachroniques ou risibles. Ce n'est pas Beverly, Ambre ou Isée qui vous dirait le contraire. Bouh! C'était « Mais qui croit encore aux histoires de fantômes? » un texte de Antonin Gracien, paru le 28 juillet 2022 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Nicolas Wartman à la recherche, à la présentation et au montage.